Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver après votre week-end d'intégration pour accueillir Marc Mimram. Cher Marc Mimram, l'école est très honorée que vous ayez accepté de venir donner cette leçon inaugurale ce matin. Vous êtes architecte et ingénieur. Vous êtes un ancien élève de l'école des ponts. Votre formation est ancrée à la fois dans les sciences et techniques et dans les arts et les lettres, puisque au-delà de votre double formation, vous avez étudié le génie civil à Berkeley et vous avez étudié en France à la fois les mathématiques et la philosophie. Vous avez vous exercez votre activité dans une structure que vous avez créée il y a plus de 25 ans. Vous travaillez à des projets en France et à l'international, très variés, aussi bien des ponts, des passerelles, des gares, des édifices sportifs, culturels, des logements. Vos travaux ont été récompensé par de nombreux prix. Je citerai la prestigieuse Équerre d'argent pour la passerelle Solferino à Paris. Vous êtes aussi très soucieux de l'enseignement de votre art. Vous avez enseigné ici même à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, à l'Université de Princeton. Vous êtes professeur d'architecture à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, où vous êtes, vous êtes responsable de la filière matière à penser, et avec Bernard Vaudeville, vous êtes ici présent, président du département génie civil et construction, vous êtes responsable d'un cursus commun aux deux écoles, intitulé Structure et architecture. Votre leçon inaugurale s'intitule Structure et architecture, un projet partagé. Je pense que vous allez nous parler de l'ensemble des raisons qui président à la réalisation des grands projets. Vous allez faire rêver le public. Je vous en remercie.
Merci pour tout cela. Je suis toujours un peu étonné qu'on parle de mes diplômes parce que je suis bac plus 45, ou je ne sais pas. Je suis très content d'avoir un public captif ce matin. Vous ne pouvez pas sortir pour deux raisons. D'abord parce que les issues de secours sont bloquées et parce qu'il fait très chaud. Et je vais vous parler d'un truc un peu ringard parce que non seulement je suis bac plus je ne sais pas combien, mais je suis sorti de l'école des ponts il y a 40 ans. Et donc j'ai l'âge de vos parents. Non, je suis sorti à un moment où vos parents naissaient. Enfin, c'est compliqué, quoi. Enfin, bon, tout ça pour vous dire que je suis un dinosaure de la chose. Et je vais vous parler de choses de dinosaures. Je ne vais pas vous parler d'intelligence artificielle. Je ne vais pas vous parler de bionique. Je vais vous parler de la gravité, du poids des choses, du scalp de cet ouvrier sur son chantier, du plaisir de construire, enfin, tant de choses ringardes. Ça va? Vous êtes content de rentrer à l'école des ponts? C'est la promo, ça? J'espère que parmi vous, quelques-uns s'intéresseront à ces vieilles choses ringardes. Pour commencer, un peu de morale. Après on déconnera davantage. C'est un métier compliqué, dans lequel on a une très grande responsabilité, quel qu'il soit, quelle que soit la filière que vous choisirez. Parce qu'on a la responsabilité de transformer le monde. Alors, ce n'est pas une ambition, c'est une réalité. tout ce que nous utilisons pour construire, que ce soit ce bois, qui est vraisemblablement un bois de la forêt tropicale, cet acier inoxydable qui vient du sous-sol, cet aluminium qui vient de Nouvelle-Guinée, tout cela appartient au monde. Donc notre responsabilité, elle est bien dans la transformation du monde. Tout ce que nous mettons en œuvre est lié à une valeur énergétique de la transformation. Elle s'en va déjà ? Ah non, pardon. Je croyais que c'était une étudiante. Toutes ces actions-là font que notre responsabilité est mise en jeu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Vous avez bien vu récemment, par les événements récents, que notre responsabilité, elle pouvait être encore même dans les ouvrages que nous construisons. Et je voudrais qu'à chaque instant, on puisse prendre conscience de cela en raison. Notre métier n'est pas un métier issu d'une équation. J'ai reçu des coups de téléphone désespérés au mois d'août me disant « Est-ce que tu vas changer de métier ?» Est-ce que la science et la technologie sont tellement savants que l'on sait ce que l'on va faire? Et ça met dans un certain nombre de doutes. Alors j'ai décidé de ne pas douter toujours, sinon je changerais évidemment de métier. Il est un peu tard. Il y a un deuxième débat qui est abordé par ma présence ici, qui est le lien entre les architectes et les ingénieurs. Alors, c'est un vieux débat. Je ne vais pas l'aborder de manière fondamentale. Ce que je sais, c'est que on est très souvent dans la caricature. Vous l'êtes peut-être même déjà. Vous avez fait 2 années de classe préparatoire, ou 3. Et vous avez déjà dans la tête l'idée que l'architecte est un artiste, qu'il parle vraisemblablement avec un accent étranger, et qu'il dessine des courbes dans le paysage, « as curvas du tempo ». Et nous autres, quand j'étais étudiant en architecture, nos étudiants qui sont de l'autre côté, ils pensent que vous êtes des ringards de la machine à calculer, que vous contentez de résoudre quelques équations, quand vous n'échappez pas à tout cela pour entrer dans le monde de la finance. Donc sortons de ces caricatures et essayons d'ensemble de partager un monde commun. Je n'ai pas la phrase célèbre de Le Corbusier qui disait que la seule chose qui était sûre, c'est que l'ingénieur était viril, puissant, et que l'architecte était mièvre. Je me suis dit que ce choix était très difficile à faire. Et que je ne serais pas. J'ai juste détourné le bas de la couve de Libé. Hein. Et que je ne rentrerai pas dans ce débat aujourd'hui. Firmitas, utilitas, vetustas, venustas, tout ça est passé parce que la ville générique aujourd'hui est une ville terrible qui se développe partout dans le monde. Nous, on construit beaucoup en Chine. Et quelle est la place de l'architecte là-dedans? Quelle est la place de l'ingénieur là-dedans? Je reviens au monde de la finance. Ils sont vraiment plus puissants que nous là-dessus. Et leur responsabilité est plus grande encore. Je ne vous invite pas à quitter notre monde pour le monde de la finance. Vous l'avez bien compris. Mais la ville générique, celle qui se... c'est pas des photomontages, hein, c'est pas une maquette. J'ai fait ça d'un hôtel à Shenzhen. La question de la solidité est une question qu'on peut réinterroger. Quelle est la place de cela, de la rationalité que l'on nous propose, que l'on se propose à nous, qui se propose à nous, et comment l'interroger? La fonctionnalité, vraisemblablement aussi. Les règles, comment réinterpréter la règle, c'est la part que nous devons prendre. Et quelle est la place de tout cela dans le monde? Quelle position prenons-nous par rapport à cela? Et vous comprenez bien qu'il ne suffit pas de dire « je vais d'une rive à l'autre, je franchis la vallée, je franchis la baie de... » pour régler le problème. Il faut évidemment s'interroger sur la place de tout cela dans le monde, à partir du paysage, à partir de raisons multiples, et la chose ne devient pas à ce moment-là si simple. Notre monde est réglé par quelques... On a la chance qu'il soit réglé par quelques raisons, cette fois-ci rationnelles. Quelques modèles que nous partageons. La structure n'est pas un phénomène réservé au monde.
Brand new, revolutionary uplift. No shoulder straps, no back straps, but does everything a brassiere should do. Works on the principle of the cantilever bridge.
On peut trouver de la structure partout, y compris dans les films et dans les bras. Mais la question qui se pose à nous, c'est bien celle de la place de nos ouvrages dans la transformation des villes et la mixité qu'il propose. Aujourd'hui, les choses sont très complexes et c'est un ouvrage qui n'est... Vous voyez, c'est très étonnant, c'est une rue d'Alger portée par un bâtiment qui franchit la vallée. Donc toutes ces questions sont des questions assez riches, assez multiples. On va les aborder à travers quelques projets. C'est toujours indélicat de parler de ce que l'on fait, mais c'est aussi peut-être une manière de vous montrer que ça existe et que j'ai le plaisir, l'avantage, je ne sais pas comment on dit, de pouvoir le faire. Donc je vais vous montrer quelques exemples. J'ai beaucoup de photos de vacances. Mes vacances sont au quotidien. J'ai choisi de vous montrer quelques bâtiments d'abord et puis quelques ponts ensuite. Là, il s'agit d'un bâtiment pont que l'on construit sur l'avenue de France, face à dans l'axe de la Bibliothèque de France. Et la question, c'est comment utiliser une structure au-delà d'elle-même, une structure qui libère l'espace. L'idée, il faut franchir 58 mètres. L'idée commence par un modèle statique assez simple que vous devez connaître parce qu'il doit y avoir quelques scouts parmi vous qui ont utilisé cela pour faire une chaise. Et c'est ce que l'on va utiliser pour le projet lui-même. On a apporté... Il y a un truc qui s'allume là. Entre appui, il y a 58 mètres ici. Et puis la chose bizarre, c'est qu'on nous a donné 4 appuis d'un côté et 2 de l'autre. Le bâtiment pèse à peu près le poids de la tour Eiffel. Il pèse à peu près 8000 tonnes. La tour Eiffel pèse 7500 tonnes. Et on doit le mettre au-dessus des voies, là. Donc ce qu'on propose de faire, c'est de décomposer ça en 4 ponts qui franchissent pour l'un... pour deux, les deux latéraux, les 58 mètres des voies de chemin de fer, et pour les deux transversaux, la stabilisation transversale. Et alors, ce qui est très étonnant, il reste un entre-deux. Et cet entre-deux, on doit le qualifier, et il permet d'être justement plus libre qu'il ne serait si la structure était régulière. et on va voir comment cela permet de faire des bureaux un peu particuliers. Vous voyez, à ce moment-là, la question qui se posait à nous, c'est vraiment une question de dépassement. C'est-à-dire que donner du sens à quelque chose qui était simplement un grand bond, 58 mètres, un grand bond de gravitaire. Voilà la transformation que cela donne. Vous voyez, les voies de chemin de fer sont là. Ce sont les voies de la gare d'Austerlitz. Et donc, on a le droit de couper les voies que 4 heures par nuit, 1 heure pour mettre le circuit off, 2 heures de travail, 1 heure pour mettre le circuit in. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver une méthode de construction, il faut trouver une méthode de réalisation de la structure. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de tout ça, on s'en fout un peu. Et c'est au contraire un espace très différent que l'on constitue. Et c'est un espace qui a une caractéristique de domesticité plus grande encore que le logement. Et c'est la domesticité du bureau. Vous allez passer plus de temps dans votre bureau que dans votre lit. Et donc, je pensais que c'était bien l'occasion de créer des espaces différents, nouveaux. Alors, on a eu la chance d'avoir deux ponts latéraux qui permettaient de glisser l'ouvrage. Donc, on va faire cela, on va construire les ponts latéralement, les glisser, les redescendre et puis les remonter ensuite. Vous allez voir ça tout de suite. La première chose que l'on doit faire quand on construit au-dessus des voies, c'est ce qu'on appelle un crash deck, c'est-à-dire un solde qui permet d'empêcher le gars que vous avez vu, le punk, tout à l'heure, de laisser tomber son clou sur les voies de chemin de fer parce que ça fait des ordres sur les trains. Donc on construit sur les deux ponts latéraux, on glisse les choses. On glisse les deux premiers ponts. Ça avance de quelques centimètres par heure. Ça, c'est ce qu'on avait proposé au moment du concours. On redescend, puis on monte la structure, et puis elle devient ensuite une structure classique que l'on vient à remplir. Et au-delà de ces quatre franchissements, se constitue un espace qui est un espace de nature très différente, puisque on y habite autrement. Mais à la fin, je reviens à la question, aux premières images que je vous montrais, c'est de l'acier transformé à partir de minerais de fer, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Et c'est bien la transformation de la planète dont il s'agit dans ces quantités d'acier mises en œuvre. Le projet, une phase de réalisation. Et le plaisir du chantier. N'oubliez jamais cela. Si vous devez vous retenir quelque chose, c'est la part que le chantier donne de sens au projet. Le chantier, c'est cette mémoire partagée du travail. Nous, on est que des acteurs d'une part du cheminement qui va du minerai de fer jusqu'à la démolition et la retransformation de ces bâtiments. Et au cœur de tout cela se trouvent ces hommes qui travaillent tôt le matin avec des mains un peu larges et qui mettent des aciers dans du béton ou qui soudent quelques barres et qui font que tout cela est rendu possible, non seulement rendu possible parce qu'on l'aurait projeté, mais rendu possible parce qu'ils vont nous donner l'écho de tout cela et qui va donner du sens à notre travail. Le chantier, c'est cette mémoire du travail partagé. Là, on en est là à peu près aujourd'hui. Dans le genre expérimental, on vient de finir la gare de Montpellier, qui est une gare entre le centre-ville et une gare TGV entre le centre-ville et la périphérie. C'est un bâtiment pont à nouveau, assez simple, qui a pour particularité de s'appuyer sur un matériau. Je vais insister sur un thème pour chacun de ces bâtiments, sur un matériau nouveau qui est le béton de fibre ultra performant qu'on appelle plus classiquement en France ductal. Donc là, il y a le franchissement des voies, la couverture. Et cette couverture a pour objet de filtrer la lumière. Je vais vous parler de cela parce que, voilà, par exemple, un exemple est celui-ci. C'est comment la structure peut être un outil de transformation de la lumière. La gare de Montpellier, je la voulais méditerranéenne, c'est-à-dire une gare qui parle de l'ombre et non pas simplement de la lumière. Une gare qui parle du filtre de la lumière et non pas de la lumière directe. Il n'y a pas tellement de raison d'aller faire des grandes verrières à cet endroit-là, puisque, si je ne m'abuse, les trains à vapeur ont quitté le 19e siècle. Il n'y a pas vraiment de raison de mettre que du verre sur le toit. Et donc on s'est appuyé sur l'hypothèse d'un filtre, un filtre qui ferait de l'ombre et à travers lequel percerait la lumière, les lumières, puisque en fonction des orientations, la maille que vous voyez là est un peu différenciée. Au sud, il y en a davantage et au nord davantage. Cette couverture est transformée comme un outil aérolique qui permet de faire entrer du vent ici et de le faire ressortir de l'autre côté. Et face au vent dominant, cette couverture est comme un transformateur, un accélérateur de vent. Et on avait fait quelques essais de mise en forme de tout cela pour regarder comment le vent pouvait modifier le climat à l'intérieur. L'enjeu étant de réduire de quelques degrés la température à l'intérieur de la gare. Et voilà l'image de référence, c'est Grand Central à New York. Voilà la couverture. Et voilà le pas se franchit. On franchit le pas à ce moment-là. Ça, c'est un concours, une image, un projet. Et quelques mois plus tard, voilà les palmes dessinées, le prototype réalisé. Et alors, il s'agit de palmes en béton, donc de 18,40 m de portée, qui sont comme des feuilles pliées. La caractéristique de la feuille pliée, c'est d'avoir de l'inertie, et d'avoir une résistance de forme. Et dans ce cas, on arrive à faire une couverture qui fait 3 cm d'épaisseur avec une partie centrale dans laquelle il y a une précontrainte. 3 cm d'épaisseur sur 18 mètres, c'est peu. Et si je vais le refaire aujourd'hui, je mettrai 4. Peut-être 5 d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on est fou à ce point-là de faire des économies comme ça. Enfin, après le mois d'août, j'ai quelques angoisses. Mais ne le répétez pas parce qu'il y a des voyageurs maintenant sous la toile. Et vous voyez, les percements sont différenciés en fonction des orientations et des lieux. Et ça permet la préfabrication. Et ça permet surtout de faire, dans une première mondiale, une structure qui est à la fois structure et couverture. De faire des structures en béton de fibre, c'est possible. De le faire. Ce qui est extraordinaire là, c'est que c'est un matériau qui est très peu poreux. Et donc, quand on fait la feuille de béton, on n'a besoin ni de mettre une étanchéité par-dessus, ni de rapporter une couverture. Donc, on n'a pas de différenciation entre la charpente et ce qui vient par-dessus. La charpente devient la structure, et la structure devient couverture elle-même. Et donc, c'est vrai dans ce cas-là, précisément, parce qu'il n'y a pas d'étanchéité, il n'y a pas d'isolation thermique. Et ça devient un filtre à lumière. Voilà une hypothèse. Je pense que le projet peut se résumer jamais à cela, ne peut jamais se résumer à cela, mais c'est toujours d'une hypothèse que naît le projet. C'est assez photogénique. Je dis ça parce que ça prouve pas forcément que c'est bien. Mais en l'occurrence, c'est pas mal. Alors là, c'est vide. Et alors, je vais vous montrer une photo que j'ai prise il n'y a pas très longtemps. Et étonnamment, il y a des gens. Les écolos, contrairement à ce que je croyais, j'ai vu la porte-parole d'Europe Écologie Les Verts l'autre jour, qui me dit qu'elle était contre la gare de Montpellier, parce que je n'ai pas très bien compris pourquoi exactement. Mais parce que je croyais que les trains, c'était bien, mais pourquoi je me trompe. Je me trompe parfois. Je me trompe souvent. On a souvent quelques débats un peu violents avec le monde extérieur. Je voulais dire politique. Bon, alors, c'était juste pour eux, mais ils sont pas là aujourd'hui. Je voulais leur montrer qu'il y avait des gens dedans. Parce que cette gare n'est pas en fonctionnement très bien encore, parce qu'il manque la gare, le Baronne, Montpellier. Et puis un jour, il y aura plus de monde. Et voilà, c'est une hypothèse de la relation entre un matériau, la lumière, la gravité, le franchissement, et tout cela. Notre travail, c'est ce travail de mise en cohérence. C'est ça qui fait le plaisir de ce métier, c'est cette mise en cohérence. Donner du sens aux choses, c'est un peu cela. Quoi. Quelle heure il est là ? Un autre exemple, c'est l'école d'architecture de Strasbourg. Et là, l'hypothèse, c'était de prendre une règle d'urbanisme, de la maximiser pour développer un espace au centre. À partir, je prends encore une fois qu'une entrée, à partir d'un système structurel. C'est comment mettre le bâtiment sur des talons aiguilles pour soulever et libérer un sol qui devient un espace public, un espace ouvert. Et en l'occurrence ici, c'était de... Vous voyez ce qui est rouge, c'est structurel d'ordre premier. Donc ça s'inverse à chaque fois. Donc on a inventé une structure qui est une structure qui ressemble à une structure en treillis, mais qui est une structure totalement impure, à Brevenot-Sillon. Vous voyez où il y a des choses qui sont en treillis. Et c'est une sorte de mixte Virandello-Warren. Vous verrez tout ça, après on vous mettra des noms sur les choses. Mais pour vous dire que l'impur est... peut-être possible quand il est raisonné. Donc chacune de ces membrures a des contraintes différentes et elles vont avoir chacune évidemment des dimensions différentes. Mais ça part de cette hypothèse-là qui est une hypothèse où il y aurait dans chacune des salles de l'école des grandes fenêtres et que la structure viendrait être à l'intérieur parce qu'elle ne peut pas l'être à l'extérieur pour des raisons thermiques, mais qu'elle est filtrée par un filtre de lumière et que... Elle s'inverserait de jour et de nuit. De jour et de nuit, comme derrière un rideau de théâtre où la structure apparaîtrait de jour et de nuit. On a filtré tout cela par un élément de métal fait pour l'occasion. Et voilà le bâtiment de nuit. La structure réapparaît. Elle est lisible. Et le sol est libéré. Posé sur ses talons, et le jour, on a un élément plus compact. Mais ça donne surtout à l'intérieur des situations de cette nature où on voit la cathédrale de Strasbourg, cathédrale inachevée, avec une seule tour. Je vous invite à proposer de la poursuivre. N'oubliez jamais que Viollet-le-Duc a mis la flèche sur Notre-Dame au XIXe siècle et pas au XIIe. Il n'était pas tout à fait né. Donc parmi vous, il y aura sûrement un d'entre vous qui terminera la cathédrale de Strasbourg. Peut-être. Et polémique pour polémique, on construit actuellement un cours. Je vous parle de ça pour l'hypothèse de la mixité, voilà l'ensemble du stade de Roland-Garros à Paris. Et avec Michel Corajou, qui est un paysagiste malheureusement décédé récemment, il avait proposé d'ouvrir le stade de Roland-Garros sur la ville, avec un grand parvis comme cela. Et ici, un cours qu'on appelle qui est un cours circulaire, qu'on va démolir pour construire ce cours qui est... À côté des serres d'Auteuil, pas dans les serres d'Auteuil, pas à la place des serres d'Auteuil, comme le disaient mes copains d'Europe Écologie Les Verts, qui ont laissé penser que j'allais détruire les serres de Formigé, qui est un magnifique architecte du 19e siècle. Donc on va laisser tranquille ces serres, mais on va construire un cours dans les serres, à côté des serres, avec des serres, enceint de serre. Et le cours, le nouveau cours va être en contrebas, et ce que l'on lira, c'est ces serres qui seront en relation avec les serres de Formigé dans le même gabarit, mais réinterprétées de manière contemporaine. Donc on a 1500 mètres carrés de serre autour du cours, et ces serres permettent de créer le lien entre la structure du stade qu'il porte, les tribunes qu'il porte, et la structure du paysage autour. Voilà ce qu'on voit depuis l'entrée de Roland-Garros. Voilà ce qui était promis. Des serres. Alors, voilà où on en est aujourd'hui. Tout ça n'est pas achevé, mais je vous montre ça en avant-première. Ça, c'est la tribune du stade. Là, le stade va être comme cela. On va pas laisser, la sous-face grise, ne vous inquiétez pas, mais on mettra de la terre battue. Et voilà les serres aujourd'hui. C'est un travail sur la structure qui est un travail plutôt dans une autre échelle, celle de l'attention à la matière mise en œuvre, à la transformation de cette matière pour créer ces espaces entre la tribune et les serres elles-mêmes, très tenues, très ténues, et réaliser ces serres qui sont faites à partir d'écailles de verre. C'est très compliqué là, l'hypothèse sur laquelle on travaille, parce que au XIXe siècle, Formigé travaillait sur des tout petits verres qui fabriquaient des échelles de lecture très très fines, et nous on a des très grands verres, on va pas découper tous ces verres en petits morceaux pour les réassembler. Mais comment donner une lecture plus sophistiquée, pas faire une bulle de verre, et là on a travaillé sur un système d'écailles assez complexe qui permet de donner cette lecture. Voilà, parlons de quelques ouvrages de franchissement qu'on appelle communément des ponts. Ça ressemble de plus en plus à un vestiaire de foot ici. La question la plus compliquée est la question de la résonance avec la situation. Qu'est-ce qui parle et qui fait que le pont est spécifique ? Ça n'est pas un ouvrage générique. Je ne m'attaque pas à mes prédécesseurs, qui, dans cette enceinte même, dans l'ancien Amphicaco où j'étais étudiant, prétendait qu'il y avait un catalogue possible d'ouvrages d'art. Si je m'attaque un peu à eux, d'ailleurs. Il disait qu'il y avait un catalogue qui a été édité par l'école, je ne sais pas, par l'école, enfin les ponts, où on doit trouver la bibliothèque, où il y a marqué un ouvrage de 10 mètres doit avoir telle forme, un ouvrage de 20 mètres doit avoir telle forme, un ouvrage de 40 mètres doit avoir telle forme, et s'il fait 150 mètres, il doit avoir telle forme. Il y avait une raison immanente qui était celle du calcul, une rationalité qui dépassait tout. Je me suis élevé contre ça assez jeune, je dois dire à peu près à votre âge, et j'ai toujours revendiqué l'hypothèse que le pont devait être non pas générique mais spécifique, c'est-à-dire en résonance avec le lieu. Qu'est-ce qui ferait que la géographie de ce lieu dans lequel il prend place pourrait parler autant que de raison le calcul, faire en sorte que la matérialité résonne avec la situation. Et vous voyez qu'il y a entre raisonnement et résonance une familiarité que j'évoque ici. Voilà les Ljubljana. Un espace public, avant tout un espace public, faire en sorte que le pont soit ce lieu de partage, je dis des structures architecturales, un lieu de partage. Le pouvoir était représenté jusque très récemment encore par les bâtiments essentiellement. En son temps, les églises, on parlait des cathédrales tout à l'heure, les bâtiments publics, les mairies, tout ce qui était... dans le catalogue de Durand. Aujourd'hui, ça n'est plus cela. La puissance publique ne se représente plus à travers ces bâtiments aussi, de manière aussi symbolique. Et peut-être que la raison pourrait être que le lieu le plus représentatif de notre société commune, c'est l'espace public. Et cet espace public, c'est le lieu de la démocratie, puisqu'il est à tous, par tous, et réapproprié par chacun. Ici, le pont de Prague, ou à Istanbul, le franchissement du Bosphore. Je préfère à celui d'aujourd'hui, plus distant de la prise en compte de chacun. Les ponts sont des ouvrages symboliques, on le sait, non seulement par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils unissent, pas simplement fonctionnellement d'un côté à l'autre, mais vous voyez bien que il y a plus qu'une symbolique là, à détruire un ouvrage. Je vous parle du rôle de la destruction, de la ruine, comme symbolique de la détermination des hommes à couper le lien, non seulement le lien fonctionnel, mais le lien social entre eux. Les ouvrages d'art n'ont pas échappé à la rationalisation de leur construction, mais on nous a proposé des modèles absents, des modèles fonctionnels de liaison en dehors de la raison du lieu. Et c'est à cette raison du lieu que je voudrais revenir aujourd'hui. Très rapidement, je crois que regardez la passade Solferino à Paris, elle me paraît encore plus forte encore quand elle est sous la... Non, c'est pas tout à fait vrai, mais quand elle est sous l'eau, ce qui me paraît très bien, c'est très important à lire, ce n'est pas la passerelle elle-même, mais les gens qui viennent voir le fleuve, qui viennent se rappeler à quel point la Seine est la matrice de leur lien commun. Et la géographie, dans ses effusions les plus fortes, nous met en relation encore davantage encore en relation avec le monde que nous partageons. Il y a des valeurs symboliques d'une autre nature. Elles sont moins importantes à mon sens. On m'interroge souvent sur la place des cadenas. Je m'en fous un peu. Et pas. Pour deux raisons, c'est quand les mecs viennent couper les cadenas, ils coupent en même temps le garde-corps et ça c'est embêtant. Donc maintenant il y a du bois à la place. Et la deuxième chose, mais c'est entre nous, j'ai jamais compris pourquoi l'amour devait être symbolisé par un cadenas et une clé. Mais ça, ce n'est pas lié au pont. On peut en parler après, si vous voulez. C'est le lien entre le musée d'Orsay et le musée du Louvre. Et il y a un moment, on a détruit la passerelle provisoire qui était là, et c'est une passerelle qui avait duré 30 ans. Et je me suis retrouvé devant ce paysage libre. Et je dois dire que je ne me suis jamais interrogé sur l'hypothèse de ne pas le faire. Peut-être à cause d'une très grande naïveté. Mais c'est vrai que ce moment où tout est libre et on va occuper l'espace est une grande responsabilité. Donc on avait fait cette proposition, qui est une proposition plutôt de lien avec le lieu. On ne peut pas dépasser cette passerelle de 50 cm, elle ne marcherait plus, mais elle est bien là, dans les 105 mètres de sa portée. C'est que, donc on a construit cette passerelle dans l'an 2000, donc il y a une vingtaine d'années, on a gagné le concours en 92. Il y avait beaucoup de voitures ici, sur le quai rive gauche, en bas. Et les gens m'ont dit, mais pourquoi faites-vous un lien avec les bagnoles qu'il y a là ? Heureusement, il y a un petit bout de parking. J'ai dit, on va au parking. Jamais j'ai imaginé que tout ce quai deviendrait public. Mais peut-être l'aurais-je rêvé. Dans l'autre sens, il y avait plein de bagnoles sur la rive droite. Ici, et on ne pouvait pas franchir ici, donc on est passé par-dessous, on a fait cette liaison-là. Aujourd'hui, il y a un feu rouge ici, et ils ont même fermé la liaison basse, ces imbéciles, pensant qu'on pouvait pouvaient pas rejoindre le quai directement, sauf de revenir par le milieu. Mais c'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est à quel point le monde se transforme et qu'il faut jamais rien lâcher. Parce que maintenant, ici, il y a plus de bagnoles. Ici, on peut traverser. Et les quais sont redevenus des lieux partagés par tous. Et cette passerelle permet le lien à tous ces niveaux, entre le haut et le bas. Je ne veux pas vous parler de tout ça, mais juste un moment, le chantier magique. Et puis, vous voyez, tout ça est construit à partir de ces tôles de forte épaisseur, 12 cm d'épaisseur, que l'on va utiliser comme un matériau massif, que l'on va découper, façonner, assembler. Parce que la grande force de vous voyez, c'est un peu absurde, on prend une grosse plaque épaisse, on va la couper avec un fil à couper le beurre diagonale, qui va affiner à 5 cm la rive. Et c'est un peu absurde de prendre tout cela comme cela, mais ça donne une raison très particulière à cet ouvrage. Il ne pouvait être construit à ce moment-là que parce que l'on savait faire des radiographies sur place et on pouvait souder donc sur place, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Cette dame est contente, elle est la première à pouvoir monter sur le pont. Les ouvriers ne sont pas encore partis, mais elle a l'air ravie de s'approprier cet espace qui lui appartient. Il y a une deuxième question, c'était la liaison entre, non seulement entre les rives basses et les rives hautes, mais entre la rue de le boulevard Saint-Germain qui se trouve ici, et puis de l'autre côté, les Tuileries. Dans une question totalement absurde, c'est que le gabarit de navigation sous ce pont est supérieur à celui des autres ponts de Paris. Parce qu'il y a une loi en 1976 qui a agrandi le gabarit. Donc le tablier est un peu plus haut. Alors j'ai dit, mais vous êtes fous, vous n'allez pas imaginer qu'on va détruire les 35 autres ponts de Paris un jour. Ben si. Mais c'était un avantage, c'est-à-dire que la place au centre est un peu au-dessus des autres. Mais c'est pas par mégalomanie, hein, c'est parce que il y a un règlement qui le prévoyait. Donc les bateaux peuvent arriver par avion au-dessus du pont Royal et du pont de la Concorde, passer sous la passerelle et ils n'engageront pas le gabarit. Il faut toujours penser, remettre en question les règlements. Mais ce qui est intéressant là, c'est cette relation entre le sol et le ciel, entre le quai et la fenêtre sur le ciel, dans cette ouverture entre le ciel et le sol. En parlant de symbolique, je vais accélérer là parce qu'on est en retard. Je construis cette passerelle entre le Strasbourg et Kiel. C'est assez étonnant parce que Strasbourg est une ville qui cherchait son fleuve. Le liaison entre Strasbourg et le Rhin se fait seulement aujourd'hui. Victor Hugo le cherchait. Je ne vais pas revenir là-dessus, on n'a pas le temps. Mais j'ai eu des débats très étranges avec mes amis d'Europe Écologie Les Verts. Qui me dit, mais vous allez construire un pont sur le Rhin, les oiseaux vont rentrer au banc du pont. Et je leur dis, c'est très étrange, cet endroit qu'on n'aurait pas le droit de toucher. Voilà le Rhin actuel. Voilà le Rhin hier. Vous voyez, le Rhin a été transformé en une nature inchangeable. On ne devrait pas toucher au Rhin d'aujourd'hui, mais on a accepté qu'il se transforme de cela à cela, comme une autoroute à bateau. On s'est installé exactement à l'endroit où les ponts étaient détruits. Et là, on propose de faire un ouvrage qui est une liaison entre la partie inondable du Rhin sur les côtés et la partie haute du Rhin derrière la digue. Voilà les deux niveaux. Et ce qui symbolise cet ouvrage, c'est bien le moment où cette place au centre se construit. Alors oui, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on m'a dit, vous ne pouvez pas construire ce pont à cet endroit-là parce que les oiseaux vont entrer dans les mâts. Il faut le déplacer parce que il y a une famille de canards qui se trouve là. Alors on a eu des débats jusqu'à ce qu'un jour un écologiste ornithologue allemand vienne dire mais ces canards, il y en a plein à 100 km de là, ils sont vraisemblablement égarés. Donc ils étaient rares parce qu'ils étaient là, mais ils étaient un peu égarés, donc on les a remis à... Après, on m'a dit, mais il faut peindre ce pont en clair, de lumière claire, parce que comme ça, les oiseaux verront le pont la nuit. C'était la version des Français. Et les Allemands voulaient le peindre en sombre pour pas que les oiseaux soient attirés par la lumière. Alors, je ne savais pas quoi faire. Mais il y a une autre chose qui est absurde, c'est la pente de la passerelle. Elle est à 6% du côté allemand et à 4% du côté français parce que les personnes à mobilité réduite ne suivent pas la même règle des deux côtés du... Alors un jour, j'étais énervé, j'ai dit au maire, mais dans une réunion publique, mais faites attention parce que les poissons peuvent heurter la pile. Ça n'a pas fait rigoler. Voilà la place au centre, et maintenant cette place est une place symbolique de la liaison entre la France et l'Allemagne. Et cette liaison que l'on avait créée, qui est une liaison un peu complexe, quelqu'un m'a dit ça ressemble à une bande de Möbius. J'ai dit c'est pas très grave, c'est un peu comme la relation franco-allemande. Pour ceux qui se souviennent de la bande de Möbius. D'ailleurs, si on la coupe en deux, la bande de Möbius, elle devient deux anneaux. Peut-être qu'on pourrait essayer. Alors, ça a été symboliquement utilisé par l'OTAN pour faire une réunion entre l'Est et l'Ouest. Au centre, les gens se retrouvaient au centre. À part Angela Merkel, il n'y a plus personne. Ils sont tous partis. Le pont est peut-être un toit également. On a construit ce pont entre Rabat et Salé. Vous voyez, là c'est, je vais revenir sur l'hypothèse des ponts aubanais. Quand j'ai passé l'oral pour ce concours, ils me disent, mais vous faites un ouvrage où il n'y a pas de mât, de hauban. C'est pas très moderne. Il faut qu'on montre la modernité. Et moi, je leur ai expliqué que la modernité, c'était faire attention à ce paysage. Vous voyez cet horizon très ténu, faible, tranquille, qui est tendu entre les deux rives du Bourg-Aigrègue. Donc, il y a deux parties à cet ouvrage. Une partie qui est une partie de franchissement, qui était l'objet du premier concours, et un viaduc d'accès dont je vais vous parler tout à l'heure. L'hypothèse, c'est au contraire de créer un lien entre les deux ouvrages, entre les deux rives, par l'intermédiaire d'un demi-portique, un demi-portique qui viendrait s'agrandir, s'accroître pour devenir une voûte au centre du fleuve. Donc vous voyez ces demi-portiques que vous voyez là, ils font un demi-arc un peu plus grand, puis un grand arc juste dans l'axe du fleuve. Pour montrer qu'on n'était pas indifférent à cette liaison-là et que ça devenait un ouvrage de sol. Ces ouvrages sont préfabriqués. Les Marocains ont un vrai savoir-faire de maçonnerie, de travail de bois. Et y compris la préfabrication pouvait être un outil... qui fabriquerait comme une usine, un pont qui se fabriquerait lui-même. C'est très, très fordien, là. Il y a une machine à fabriquer le pont qui vient en avant et se met en place pour se tendre au-dessus du fleuve. Ça, encore une fois, on n'aurait pas pu le faire en France parce que il y a la réglementation au Maroc qui est un peu différente et on a utilisé du béton de ciment blanc à très haute résistance. comme une dentelle de béton là, qui vient s'élégir au centre du fleuve. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la deuxième partie, peut-être même de manière plus forte encore, c'est ce viaduc d'accès qui est horizontal. Le sol de Bavarie, qui est fait à partir de ces portiques espacés de 21 mètres, donc c'est de très faible portée, mais ce sont des portiques à inertie variable, des feuilles plissées à double courbure qui viennent se poser de manière préfabriquée pour constituer un très grand espace de 600 mètres de long que je voulais être non pas simplement oui, les voitures passent au-dessus, mais ça devient un espace habité, non pas abandonné, mais habité. Il ne faut jamais rien abandonner dans la ville. Tous ces espaces sont des espaces à reconquérir. Et en s'inspirant du marché de Londres, vous voyez les gens sous le pont, on a constitué ce grand espace qui doit être ou devrait être un grand espace public. Il y a juste, rien ne marche toujours simplement. Les Marocains sont très fiers de cet espace, donc ils l'ont fliqué totalement. Et un jour, j'ai dit, il faudrait faire un souk. Alors, vous comprenez bien que c'est une connerie de vous dire un souk. C'était une expression presque néocoloniale de ma part. Pourtant, on a mis de l'eau et de la lumière sur chacun des piles. Et j'imagine qu'un jour, alors là, il y a des gamins qui font de la musique, ça résonne bien. Ils sont tellement contents qu'ils empêchent les gens de se l'approprier, ce qui n'est pas terrible. Mais un jour, ça va venir. On n'a pas abandonné et ça devient un grand espace offert à tous. La seule intervention intéressante, c'est que récemment, ils devaient construire un centre commercial sur la gauche, là, ici. Donc ils ont commencé à faire les fondations, ils ont commencé à monter. Et le roi est passé et a dit, mais ça va gâcher le pont. Ils ont démoli le centre commercial. C'est pas mal. On a construit en Chine, à Tianjin, il y a quelque temps, un pont sur la Haihe. Tianjin est un petit village de 10 millions d'habitants qui va être en conurbation avec Pékin, faire un petit village de 40 millions d'habitants avec les deux liens entre Binhai, le port, Tianjin, Pékin et le lien entre les deux. Une petite conurbation. Et alors, il y avait un projet à faire et quand on a fait le concours, il y avait... Ce quai là, alors le concours prévoyait de passer le long du quai, là, et de faire une voie express le long du quai. Alors je me suis dit, c'est un peu bizarre, moi j'arrive de Paris, on enlève les voies express le long des quais. Aller en faire une à Tianjin, bon ça boit des sauvages, mais quand même, on va pas faire une route ici. Donc j'ai proposé que l'on sauve ce petit jardin. Ce petit jardin avait une particularité, c'était un jardin qui a été conservé depuis la Révolution culturelle, depuis 1976, en son état. Donc j'ai dit, on va le garder. Et puis il y a des gens qui se sont appropriés ce lieu. Il n'y a pas de raison d'aller y faire passer la voie express. Donc on a proposé de... Ils jouent au go. Ils s'embrassent, c'est ce qui est très rare en Chine. Dans l'espace public, et ils vont même nager dans le fleuve. Et on a proposé de garder ce petit jardin de 18 mètres de long, au lieu de mettre un pont avec un franchissement dessus. Donc on a transformé ça en trois espaces. J'ai insisté sur cette particularité de l'ouvrage, et une autre, qui est qu'on a liaisonné ces arcs par ce qu'on appelle des pétales, qui sont des liens qui empêchent le flambement de l'arc dans ses faibles dimensions. Donc on peut faire des fagots d'arc liaisonnés par ces pétales qui ont pour objet de travailler la lumière de jour ou de nuit. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on a fait ce prototype. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que l'usine se déplace. Vous voyez le monsieur avec ses grandes mains dont je vous parlais tout à l'heure, il est lié à cet ordinateur un peu vieillot, Mais l'image qui est là, c'est une image qui nous met en relation avec l'usine en Chine. C'est-à-dire c'est les dessins, c'est nous qui les faisions à Paris pour qu'ils soient dans leur géométrie complète, réutilisés à Pékin. Donc ce qui est très intéressant avec la transformation numérique du monde, pour ce qui nous concerne, c'est qu'à contrario, on n'est pas dans le virtuel, mais on peut s'approcher davantage encore du réel, se mettre en relation avec la fabrique, être dans l'usine très loin, y compris en Chine, et faire en sorte que le lien entre le chantier et la pensée, la matière et la pensée peuvent se rejoindre davantage. Vous avez la chance de cela. Ne pensez pas que vous allez vous éloigner dans un monde virtuel des jeux. Mais au contraire, je pense que ça va nous rapprocher du réel. Vous voyez, ça c'est un prototype. On a 64 fours qui permettent de chauffer la... Ça c'est de la fibre très high-tech, mise en place de manière très low-tech. Pour fabriquer ces 64 fours différents qui vont polymériser et encadrer le lien structurel entre les deux parties des arcs à fagots. Un champ de pétales. C'est l'usine chinoise. Un peu approximative. Vous voyez, les pétales se mettent en place. Il y a très peu d'appareils de levage dans les ouvrages construits en Chine. Au Japon, c'est le contraire, exactement. Et tout est mis en place sur des échafaudages de grande dimension et le pont se construit là. Et vous voyez, les huapar, les pétales, sont ces liaisons de jour et de nuit qui reflètent la lumière. Dans une structure toujours différente, changeante. Le lien entre les rives qui devient une passerelle, et on a sauvé ce jardin à tel point qu'ils ont construit, ils ont rendu public l'autre rive et fait un autre jardin de l'autre côté, et ensuite appelé un paysagiste américain qui a rendu ça un peu plus moderne, c'est-à-dire qu'il a tout foutu en l'air. On ne gagne pas à tous les coups. On a sauvé l'espace public, mais pas le jardin. Il était tellement content que... Enfin. On a fait ce pont qui parle de la pesanteur, du poids des choses. C'est des coques en béton qui flottent sur un lac artificiel. Une retenue d'eau, c'est la ville chinoise se construit autour d'espaces de géographie reconfigurée. Ça s'appelle la ville écologique Sino-Singapour. C'est très écologique puisqu'on a construit un lac artificiel à la place et des maisons. Enfin, il n'y a rien d'écologique là-dedans. Mais moi, je voulais travailler sur l'hypothèse du contrat de la masse, non pas de la masse soulevée, mais de cette masse, de cette hypothèse, de cette massivité-là qui ferait comme donnerait l'apparence de flotter sur l'horizon du lac, ce qui était très compliqué à ce moment-là. Je vous rappelle de l'hypothèse de la liaison avec l'usine. C'est comment inventer un coffrage qui va être construit 14 fois, déplacé, redéplacé. Et en fait, la grande intelligence du projet sera été le mode de réalisation du coffrage. On a coupé le lac par moitié, puis construit le pont. Et vous voyez, ces coques, ça c'est pas une image de synthèse, c'est une fois construit. Ces coques sont des coques à double courbure et à inertie variable. Et on retrouve, vous allez entendre parler de tout ça, ce qui se faisait en Europe ou ailleurs dans les années 60 ou 70. C'est comme cette masse flottante sur le lac. Je dis souvent aux aux Chinois que c'est pas une inspiration, mais ils cherchent toujours des images de référence. Alors je leur parle de la Louvre romaine, mais ils comprennent pas vraiment. On l'a fait en acier aussi, plutôt là, cette fois-ci comme un ruban dans la transparence et non pas dans la masse. Et voilà les images de synthèse du départ. Et voilà la réalité. C'est comme une feuille qui se déploie, qui s'ouvre et qui varie en fonction de la distribution des contraintes. Le pêcheur est content d'être à l'abri. Quelques images récentes. Ce pont flotte comme un ruban sur le... Vous voyez, on s'amuse un peu quand même. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir l'opportunité d'expérimenter, si vous ne le dites pas, vous ne répétez pas, à faire des choses que l'on ne sait pas faire, plutôt que de faire des choses qu'on sait déjà faire. L'expérience du balcon, ça c'est assez étonnant, c'est une commande pour l'anniversaire de la ville de Yangzhou. La mère, je l'ai rencontrée, m'a dit « Est-ce que vous pourriez faire un pont en 6 mois ?» Pas « Est-ce que vous pourriez faire un pont en 6 mois ?»« J'ai besoin d'un pont dans 6 mois, parce que c'est l'anniversaire de la ville. » Alors, elle avait un avantage, cette dame, c'est qu'elle était non seulement maire de la ville, mais aussi chef du parti communiste local. Et ancienne militaire. Donc elle avait été comme ça, elle avait toujours tenu comme ça, elle a dit faut le faire. Pourriez-vous me faire une esquisse pour mardi? C'était un vendredi de la semaine précédente. Alors, je lui ai dit oui, sûrement, mais je voudrais utiliser. Yangzhou, c'est une ville où il se développe beaucoup d'architecture navale. Donc je voudrais utiliser la technologie. Ça a précédé le pont que vous venez de voir. Donc on a commencé à utiliser des feuilles de métal façonnées. Alors je suis allé voir l'usine, elle me dit allez voir notre usine, je suis allé voir le directeur de l'usine, il m'a dit 75 tonnes, vous rigolez, c'est la production de l'usine en 2 heures. On ne peut pas se mettre au service d'un pont, nous on fait des grands bateaux. Elle a appelé le directeur de l'usine. Quelques heures après, on avait l'autorisation de le faire. C'est l'avantage de la démocratie chinoise. Et vous voyez, le pont est encastré aux ses extrémités. Ah non, mais ils ne savent pas tout ça, la distribution de moments, tout ça. Bon, enfin, aux extrémités, le moment est plus fort. Il est encastré là où il y a une inertie plus importante, un point de moment nul ici, pour ceux que ça intéresse, et l'encastrement à nouveau, un point de moment négatif au centre. Donc ça donne cette coupe-là, et ça permet de façonner cette tôle. Là, c'est pas une image de synthèse, hein, c'est la réalité. Les Chinois, je vous disais, cherchent toujours, il faut toujours donner un nom, alors... Ils l'ont appelé Liouche, qui est la feuille de saule pleureur. Alors, ils m'ont dit, êtes-vous inspiré par la feuille de saule pleureur? J'ai pas nié. Et on est comme flottant sur cette feuille de métal. Ce que j'aime bien, c'est cette image, je sais pas d'où était pris ce photographe chinois, où on voit
les gens faire du tai chi.
Si tous les ponts pouvaient être comme un geste de tai chi. Là, on voit bien qu'il est dans son environnement. Est-ce qu'on a 5 minutes encore? Responsabilité pour responsabilité. Je voulais vous mettre face aux vôtres et aux miennes. On construit un pont à Linz en Autriche. Concours qu'on a gagné. On a mis la première pierre, en fait, c'est la première
sable là, y a, avant l'été. Et donc c'est un pont qui se trouve sur le fleuve à cet endroit-là.
Alors moi j'ai fait ce concours naïvement en pensant que c'était une ville d'Autriche. Je suis allé voir le Danube en pensant que c'était un fleuve. J'ai lu un livre qui la descente du Danube et tout, qui parlait de toutes les spécificités de ces... Et puis je suis allé à la mairie voir le maire quand on a gagné. J'ai voulu faire une photo sur le balcon de la mairie, que je trouvais sympathique, le balcon de la mairie, pour faire une photo pour le journal local. Et on m'a dit, on ne fait pas de photo là.
Parce que Linz a une particularité, c'était que c'est la ville d'Hitler. Ses parents habitaient là, il est né là. Et c'est là où il a déclaré l'Anschluss sur le balcon de la mairie. Donc on ne fait pas de photo là.
Alors j'ai regardé cette histoire, et je suis vraiment naze, j'aurais pu regarder plus tôt.
Heureusement, je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Et vous voyez, je perds l'architecte d'Hitler. Regarde une maquette, là, la place de Linz. Et il est content à l'idée qu'on construise un pont sur le fleuve. Et une ville qui devait être le centre culturel du Troisième Reich.
Alors l'histoire fait que je vais construire ce pont.
Que j'ai un compte à régler avec ce salaud.
Et pour autant, c'est un fleuve. C'est un schéma structurel dont je vous ai parlé tout à l'heure, en double cantilever. Et on va façonner la matière pour la mettre en œuvre sur ce fleuve. Vous voyez que notre responsabilité est grande. À vous de la prendre.
Tomo arigato.
Merci infiniment, Marc Limram, pour votre leçon inaugurale, pour avoir montré toutes les facettes du processus créatif, pour avoir sans doute suscité des vocations parmi nos jeunes élèves. Alors, vient maintenant le temps des questions. Voilà, je vais venir vers vous avec le micro.
Merci. Alors je m'appelle Théo Mariani, je voulais vous demander, vous présentez bien l'aspect artistique, etc. Vous présentez bien l'aspect artistique, etc. de tous les ponts, mais enfin de toutes les structures en général, mais est-ce que justement à force de vouloir faire des ouvrages de plus en plus créatifs et de plus en plus beaux, on n'aboutit pas à négliger l'aspect technique et à faire des constructions de plus en plus dangereuses comme finalement l'histoire récente a pu le montrer. Voilà, merci.
Merci de cette question qui revient au début de notre débat. D'abord, je pense que l'architecte n'est pas un artiste, que notre responsabilité n'est pas la même que celle des artistes dans la société, que nous sommes plutôt des artisans de la transformation de la matière que des artistes. Mais c'est un autre débat. Le beau n'est pas évidemment éloigné de la raison des choses. Il n'est pas opposé à la raison des choses. Et chercher le beau, c'est toujours un peu compliqué. Se poser ce type de questions, ça n'a souvent pas beaucoup de sens. Et vous voyez... Par votre question, je ne vous prends pas en otage, mais par votre question, vous supposez un préalable qu'il y aurait comme ça une envie de beau indépendant de la raison des choses. Et j'y suis tout à fait opposé. Ce à quoi je suis également opposé, c'est à l'idée qu'il y aurait une réponse à une question posée. Le pont fait 140 mètres, voilà la réponse qu'il faut y apporter. Et le pont a une portée de 280 mètres, il est à Gênes, la seule manière de le faire, ce serait de cette manière. Vous évoquez la question de récente. Ces ouvrages ne sont pas plus risqués que les autres. Sûrement que si, d'ailleurs, je suis en train de vous mentir. Ils sont plus risqués dans la mesure où ils n'ont pas été déjà faits. Mais est-ce que s'ils avaient été déjà faits, ils seraient moins risqués? Je ne suis pas sûr, parce que la vraie question, c'est la complexité de la maintenance de ces ouvrages. Et donc, il y a un plaisir à... Il y a un plaisir à croire encore au progrès. Construire un voile de 3 cm d'épaisseur, personne ne m'oblige à le faire. Mais je crois que l'économie de matière est une des responsabilités que l'on a dans le monde d'aujourd'hui. Et parfois pas, parce que quand les coques en béton sont là, peut-être qu'on pourrait faire un bon ouvrage plus économe en matière, mais symboliquement, il était plus fort à cet endroit-là. Enfin, vous voyez, la raison est multiple. C'est ça que j'essaie de vous dire. Mais elle est raison. Il n'y a jamais un beau qui viendrait de ma puissance créative, divine, qui s'imposerait de mon seul fait. Je tente toujours de vous expliquer la raison des choses. Et s'il faut, je suis prêt à le refaire davantage.
Bonjour.
Salut.
Vous parliez de concours, donc c'est principalement par ce biais que vous trouvez vos projets.
Pardon ?
Vous parliez de concours à travers lesquels vous trouviez les projets dont vous nous avez parlé. C'est la principale manière dont vous trouvez vos projets ?
Oui, oui. C'est quasiment l'unique manière de trouver des projets. Non, j'ai hésité un moment parce que je voulais vous dire que quand j'étais à votre place, il n'y avait pas de concours. Et je pense que la chose la plus importante que l'on ait fait dans ma génération, c'est d'obliger les gens à considérer que les ouvrages, les ponts sont des ouvrages aussi symboliquement importants, tant par leur position et la position qu'ils prennent en ville, qu'il faille faire des concours. Et donc, mon premier combat en sortant de l'école des ponts aura été de dire il faut faire des concours pour les ouvrages d'art. J'espère que ça ne sera pas remis en question. Et c'est grâce à ce combat-là. À l'époque, il y avait un service d'État qui s'occupait de tous les ponts, qui s'appelait le CETRA, qui aujourd'hui n'existe plus beaucoup, je crois, et qui coiffait l'ensemble des ponts sur le territoire. Alors je me suis battu contre eux parce qu'ils géraient tous les ponts et il y avait 4 architectes qui habillaient un peu la corniche des ouvrages. Et j'ai pensé qu'il fallait, alors c'était 4, alors j'avais écrit un papier. Je vous invite à prendre la plume contre la bande des 4. Et c'est pour ça qu'il y a eu quelques concours qui ont été lancés. Et c'est comme ça que je me suis fait quelques inimitiés, qui durent encore. Mais je suis content parce que si on n'avait pas fait ça, on n'aura pas de concours pour les ponts et on n'aura pas. En Chine ? Oui, oui. Maintenant, je m'intéresse plutôt au concours truqué, mais. En Chine. Non, il y a des concours un peu bizarres en Chine. Mais non, il y a les concours.
Oui, bonjour. Une question plus de design que de technique. On a vu là beaucoup de ponts que vous avez faits et beaucoup d'ouvrages. Ils sont toujours très modernes. Alors, je sais que c'est souvent lié à la demande des politiques, comme pour le pont Hassan II, mais est-ce que vous pensez qu'on ne doit faire plus que des ponts modernes ou est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut faire du nouveau dans des ponts d'un style plus ancien qui respecte plus l'environnement des villes anciennes européennes ?
Qui respecte plus, vous avez dit ?
Un aspect qui sera plus proche de style plus ancien, des ponts en pierre, etc., qui correspond peut-être plus à des villes comme Paris. Plus ?
Vous avez dit qu'ils respectent plus ?
Oui.
Mais pourquoi ils respecteraient plus ?
qui serait plus cohérent du coup en termes de matériaux.
Est-ce que ça serait plus davantage cette cohérence d'apparence, est-ce que ce serait une vraie cohérence? Mais je vous la retourne. Parce que dans votre... Faites attention à ne pas devenir un journaliste, parce que dans votre question, il y a déjà la réponse. Qui respecterait plus l'environnement parce que sous prétexte qu'il aurait une forme plus proche de ce qui avait été fait précédemment. Encore une fois, je vous dis, je crois au progrès. Et je ne vois pas pourquoi on se devrait se mettre dans un faux mimétisme. Qui va construire des ponts en pierre aujourd'hui? Vous imaginez le coût des choses, le coût en termes de quantité de matière, le coût en termes d'efforts humains. Pourquoi ferait-on tout ça? Je ne dis pas qu'il ne faille pas construire en pierre, mais il faudrait construire en pierre aujourd'hui. S'il fallait construire en pierre aujourd'hui, il faudrait construire en pierre comme on ne savait pas construire hier. Parce que la particularité des constructions en pierre, c'était avant... Je fais une digression... Construisez des ponts en pierre parce que à la saison 1, on construisait cet arc de plein cintre. On attendait que l'eau redescende. On avait fait un bâtard d'eau. On empêchait la flotte de venir. Et puis, cette partie-là tenait toute seule. Et puis après, on construisait la voûte numéro 2. Arrive un loustique, je dis ça pour la provoque, qui dit... On va appuyer l'arc numéro 1 sur l'arc numéro 2 et on va tendre ces deux arcs grâce à la liaison qu'ils auront de l'appui de l'un sur l'autre. Cet ingénieur s'appelait Perronnet. Il a construit l'école, il a construit le pont de la Concorde, mais de Neuilly aussi, de Maxence, de Saint-Maxence. Mais il était aussi directeur de l'école des ponts, fondateur de l'école. Hommage. C'est lui. Jean Rodolphe. Et il a appuyé les voûtes l'une sur l'autre et la forme s'est transformée de l'ouvrage simplement par l'intelligence à la fois du mode de mise en œuvre et du... Je ne pense pas que ce soit du mode de calcul à l'époque, mais... C'est devenu ensuite le mode de raisonnement calculatoire. Voyez, entre la situation que vous appelez de vos voeux A et la situation B, il y a une intelligence nouvelle dans la raison de mettre en forme les ouvrages qui fait que les choses peuvent évoluer. Vous avez la chance... d'être dans cette situation aujourd'hui. Le calcul est très... Moi, j'ai eu la chance d'être né à un moment où le calcul a évolué beaucoup. On a commencé... Avant, moi, je faisais des calculs à la main, vous comprenez bien. Quand j'étais à l'école des ponts, la grande révolution, c'était que le premier ordinateur rentrait dans l'école. Quand je vous dis rentrer dans l'école, il rentrait dans une salle qui était grande comme celle-là, quoi. Et il faisait à peu près le dixième ou le dix millionième de ce que fait ce Mac, là, posé sur la table. Donc... Ça nous a permis de faire du calcul, de faire des propositions multiples. Mais vous êtes dans cette chance-là, vous avez une autre révolution qui est en marche. Et cette révolution qui est en marche nous permettra de faire des ouvrages encore différents, mais encore raisonnés, raisonnables, à l'instar de ce que la révolution qu'a apporté Jean-Rodolphe. C'est pas l'amphicaco ici ? Cauchy. Et vous avez mis la statue de Perronnet. Jean-Rodolphe, je suis très content d'avoir eu la chance de rendre hommage à mon illustre ancêtre. Ai-je répondu à votre question? Elle est bien la vallée sans lui, non? Et soudain, je ne me compare pas à Eiffel, hein, mais je veux dire... Soudain, le pont arrive et franchit la vallée. Et la vallée est différente. Et c'est là où je vous disais, on a une énorme responsabilité. Mais aujourd'hui, la vallée, elle est Garabit aussi. Elle est vallée et pont de Garabit. C'est-à-dire que soudain, il a... C'est un métier compliqué parce que
c'était peut-être mieux sans avant. Mais notre responsabilité, c'est que ce soit mieux après. Et donc, évidemment, ça devient comme un symbole fort de cette transformation. La deuxième chose, c'est que, pour répondre à votre question, on est... responsable de l'héritage, de porter l'héritage tout l'héritage de notre histoire, de l'histoire de la chrétienté qui a transformé toute cette histoire nous appartient et on est enfin, je veux dire, vive la France. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de partir dans un délire, là. Mais on doit porter tout cela. Et cet héritage-là, cette transformation que l'on opère aujourd'hui, elle se fait à partir de cet héritage-là. Mais les ouvrages sont souvent apportés, ça renvoie à la question du concours, par une hypothèse symbolique qui les dépasse très souvent. C'est-à-dire qu'à un moment... Ces ouvrages que je vous montre là ne sont pas des ouvrages de la banalité du quotidien. Ça ne veut pas dire que les ouvrages de la banalité du quotidien, il faut les abandonner, au contraire. Mais là, ce sont des ouvrages qui ont une portée symbolique forte. Et c'est pour ça qu'il y a des concours et c'est pour ça qu'on les fait. Il y a peut-être une dérive à ce que ça devienne trop fort. Trop démonstratif aussi. C'est sûrement la limite. C'est pour ça que je vous disais au départ, vous avez raison. C'est sûrement la limite. Mais par exemple, cet ouvrage qui est nulle part, vous voyez les coques flottantes sur le lac à Tianjin, c'est juste une démonstration du possible à un moment de la société chinoise très étrange, d'explosion. Des villes. Et là-dedans, je viens et je glisse cet ouvrage comme une réflexion pour moi, sur les ponts. J'ai l'impression que, voilà, cet ouvrage-là, pour moi, c'est la coque, c'est la continuité de la voûte romane que vous appelez de vos voeux.
Vous avez parlé à plusieurs reprises des problématiques écologiques. Et du coup, j'aimerais savoir comment vous gérez sur chacun des projets, justement, les questions d'éthique de l'ingénieur architecte et par rapport aux problématiques écologiques ou aux raisons de controverse sur le mobilier anti-SDF, par exemple.
Pardon ?
Merci.
J'ai pas entendu la dernière partie.
Comment vous gérez les problématiques d'éthique par rapport aux problématiques écologiques ou au mobilier anti-SDF ou ce genre de choses ?
Ce qui me paraît le plus important, c'est que on donne pas à ces problématiques-là une résonance superficielle, instantanée et politicienne. Moi, je suis fait attaquer de partout. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on est attaqué de toutes parts, pour des raisons écologiques qui me paraissent souvent dévoyées de leur sens. Il ne faut pas toucher au Rhin, alors que ce Rhin est une autoroute à bateau. Et au contraire, que la symbolique, je reviens à l'écologie, mais la symbolique de la première ouvrage de liaison entre la France et l'Allemagne est plus fort encore que toute raison écologique qui serait avancée sur ce. C'est la première fois qu'on construisait un pont pour rien entre la France et l'Allemagne, une passerelle. Elle n'est pas indispensable, quoi. Avant, on a construit un pont de chemin de fer. C'est le fleuve sur lequel, entre la France et l'Allemagne, il y a le moins d'ouvrages de liaison. D'abord, parce qu'ils ont tous été détruits pendant la guerre, et parce qu'on ne les a pas reconstruits s'ils n'étaient pas nécessaires fonctionnellement. Donc maintenant, il y a une deuxième passerelle qui a été construite, un peu plus loin, vers Mulhouse. Mais sinon, il n'y avait que des ponts de rail, des ponts d'autoroute.
Donc soudain, c'était symboliquement très important de le faire. Je reviens à votre question. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dévoyer l'écologie de son propos principal. Être conscient de votre responsabilité ne vous empêche pas de le faire. Notre responsabilité est immense dans cette transformation. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire que ce bois, qui n'est pas de la forêt tropicale, celui-là, contrairement à cette main courante, quelle était la raison de son emploi, comment l'emploie-t-on, comment extrait-on l'aluminium de Nouvelle-Guinée pour le trimballer ici, l'inox, le bois, enfin, tout cela. J'essaie de comprendre quelle est, par exemple, la quantité d'énergie grise incluse dans nos ouvrages. C'est très compliqué à savoir. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Je vous invite à le poursuivre s'il vous intéresse. Mais ça ne veut pas. Ça, je pense que c'est le mot que vous avez employé qui est le plus important, c'est éthique. Donc il nous faut une éthique, une morale, une manière de se comporter par rapport à cette question-là, qui ne peut pas être politicienne, du genre on n'a pas besoin de train à Montpellier, en TGV, on peut garder la gare ancienne, on n'a pas besoin de mettre une nouvelle gare. Je ne pense pas un seul instant que la SNCF construise des lignes de TGV supplémentaires pour le plaisir. Alors comment peut-on dire que cette gare ne sert à rien alors que, enfin, je veux dire, j'ai l'impression que, vous voyez, c'est comme la pétition contre le stade de Roland-Garros qu'on construit dans le cours des Serres, là. Avec la photo, ils veulent détruire le cours des Serres. À quoi ça sert de dire des choses pareilles alors que Formiger est un incroyable architecte concepteur de ce jardin, que personne n'avait l'intention de détruire ces serres. On s'est mis là où il y avait une déchetterie dans le jardin. Donc c'est plutôt une écologie positive qui me paraît importante. Alors, je pensais pas du tout employer ce mot trois fois ce matin, mais une écologie de progrès. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on combine, c'est que vous voulez qu'on parle du nucléaire? Non, mais comment est-ce qu'on... ou de l'EPR? Je ne veux pas faire ça, je suis pas compétent, mais... Mais comment est-ce qu'on combine l'hypothèse de cette idée du progrès et de l'idée de l'attention au monde? Et donc ça, c'est sûrement ce qui nous revient, ce qui vous revient de plus important. Il y avait une deuxième question, là.
Bonjour. Je voudrais parler plus de votre formation. Qu'est-ce que vous apportez le fait d'être architecte et ingénieur et pas simplement un ingénieur? Merci.
Je renvoie à la question inverse. Qu'est-ce qui m'a apporté le fait d'être un ingénieur et pas simplement un architecte? J'ai refusé au début de cet exposé de distinguer les deux de manière caricaturale, parce que c'est souvent le cas, et qu'on me bassine avec ça depuis 40 ans. Le débat entre architecte et ingénieur est, à mon sens, un peu vain. Ce qu'on a réussi à faire avec Bernard et à l'école des ponts, c'est de faire en sorte que le lien s'opère entre les deux écoles, là, l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, juste à 50 mètres d'ici, là, et l'école des ponts, de manière à ce qu'un enseignement commun puisse naître. Je vais vous dire une chose très simple. Je ne pense pas qu'il faille que tous les architectes deviennent ingénieurs. J'ai connu de très bons ingénieurs, de très bons architectes qui ne connaissaient pas la différence entre un poteau et une poutre. Ça aurait été bon qu'ils l'apprennent, mais bon... Je ne citerai pas de nom. Quand j'étais ingénieur pour des architectes, je voyais des choses très étonnantes. Et je connais beaucoup d'ingénieurs qui n'ont pas de formation artistique, comme vous le disiez tout à l'heure. Et c'est peut-être pas indispensable. Mais c'est bien que ça puisse exister. Parce que ce qu'il faut que qu'on partage ensemble, c'est la culture de... La culture du projet. Et ce qui est compliqué, c'est l'idée du projet. Avant la culture du projet. Vous ne savez pas, parce que vous venez d'arriver à l'école, ce qu'est un projet. Et peut-être que ce qu'il faudrait, c'est que quand vous sortiez de l'école, vous sachiez ce qu'est un projet.
C'est très compliqué, ça, l'idée du projet. L'idée du projet, c'est de partir de rien, d'aller d'une rive à l'autre et de s'inventer des contraintes pour que ce soit raisonnable et cohérent. Et donc ça, c'est cette culture du projet-là, elle peut se faire dans des écoles d'architecture, évidemment, et elle peut se faire dans des écoles d'ingénieurs. C'est ça qui me paraît le plus important, partager ensemble la culture du projet. Alors si vous ne voulez pas devenir architecte, c'est pas très grave. Si vous voulez le devenir, ça serait tant mieux. Pour vous, surtout. Moi, je ne crains pas la concurrence, ça va, quoi. Vous pouvez venir dans ce club, c'est un peu fermé, mais qui s'ouvre chaque année davantage parce qu'on a à peu près 5 ou 6 étudiants d'architecture, dont 4 sont là pour cette année, d'autres sont là pour l'année prochaine, rentrent à l'école des ponts et deviennent ingénieurs. Et nous, on a revendiqué le fait qu'ils deviennent ingénieurs et pas master ou master ou mastir ou magistère. Ils deviennent ingénieurs des ponts. Et à l'inverse, que les ingénieurs, vous êtes ingénieur, vous êtes élève ingénieur, j'imagine. Vous pouvez devenir architecte et devenir architecte réellement, quoi. Et donc c'est bien que cette culture soit partagée. Mais encore une fois, tous les ingénieurs des ponts ne vont pas devenir architectes, et heureusement, parce que sinon là, ça serait embêtant, parce que là, on aurait une atteinte déloyale au marché. Mais que quelques-uns d'entre vous essaient de trouver cette. Ce chemin commun me paraît utile, et que les autres aient été obligés ce matin de m'écouter. Vous étiez obligés, donc vous n'avez pas le choix. Ça vous permet d'imaginer que ce monde-là est un monde possible, ouvert, un monde de plaisir, parfois quelques difficultés, mais un monde où on trouve à la fois... confronter la raison des choses et les choix. Je veux dire, à la fin, ce qui est le plus compliqué, c'est de décider de faire des choses. Pas de dessiner, mais de décider. Et on va faire ça, et on va proposer cette solution-là. Vous me disiez, c'est un concours. À un moment, il faut se décider et décider. Et ce choix-là, il doit être fait en conscience, et c'est ce qu'on appelle le projet. Donc, c'est utile que ces cultures se soient partagées. Et l'architecture est une discipline, c'est pas un geste aléatoire, c'est une discipline au sens scientifique du terme, intellectuel du terme plutôt, et l'ingénierie aussi. Et ce vaste champ est ouvert, et je vous invite à y prendre votre part.
Vous aviez dit que que vos projets créent beaucoup de conflits. Et je voudrais savoir comment vous faisiez pour gérer tout ça et pour si vous arriviez à imposer vos idées par rapport aux gens qui vous posent des soucis.
Ça dépend, on travaille. Quand je construis un pont en Chine, ça crée rarement des conflits. Je ne travaille pas toujours dans des démocraties très fortes. En France, la démocratie est plus forte. Heureusement. Malheureusement, les recours sont multiples et incessants. C'est comme si on ne devait plus rien changer, vous voyez. Vous allez être désigné ce matin comme le ringard de service. Non, c'est pour déconner. Et les gens sont contre tout changement. L'esprit grelois réfractaire. C'est ça l'actualité, non? Mais c'était un mot, disait le président. Non, il faut se battre, quoi. Il faut. C'est bien parce que, en même temps, ça veut dire qu'il faut que vous puissiez argumenter. Tu as dit 3 ans, 6 ans sur Roland Garros. Ah non, un seul projet. Non. Non, celui-là n'a pas été modifié. Non, au contraire, je pense que ce qui est important, c'est de dire on va faire ça, voilà les raisons pour lesquelles on va le faire. Et sûr de cela, si on perd le combat, c'est que le combat était vain.
Mais moi, je ne suis pas contre tout cela. Je suis contre les idées qu'on passe des milliers d'heures dans des réunions publiques où, à la fin, tout est joué d'avance et le recours se fait quand même. Ça me fatigue, quoi. Je suis obligé de venir parler avec des gens qui s'appellent Horizon Vert, qui sont contre le projet au début du débat, à la fin du débat, et qui vont faire un recours au mois d'avril, puisque la limite du peut faire gagner du temps, ils font à la fin. Parce qu'on a un délai de recours, plus un mois de recours. Enfin, je veux dire, on est dans un cas de procédure qui n'a aucun sens. Que le juge juge sur le fond des choses, en l'occurrence sur le bien public. Est-ce qu'on avait envie que Roland Garros aille à Versailles ou à Marne-la-Vallée? D'ailleurs, l'alternative, c'était qu'il vienne à Marne-la-Vallée. J'aime beaucoup Marne-la-Vallée, mais je suis pas sûr que symboliquement pour la France, ce soit plus fort de dire le tournoi de Roland Garros à Marne-la-Vallée, chez Disney, c'était chez Disney, plutôt qu'à Paris. Oui, Paris, la Tour Eiffel. Moi, je trouvais que c'était bien ce combat, même si c'était difficile. Donc, vive la démocratie, évidemment, mais attention aux abus, quoi. Enfin, c'est la chose. Oui.
Bonjour. Moi, j'ai une question sur votre inspiration. Sur votre inspiration et sur vos idées. Enfin, comment vous trouvez vos idées? Et tout à l'heure, les Chinois vous ont dit qu'ils avaient appelé le pont feuille de sol pleureur. Est-ce que vous faites du biomimétisme ou à chaque fois c'est l'environnement qui vous décide ou vous avez des idées de pont à l'avance? Elle vient d'où, votre inspiration?
Encore une fois, il faut sortir la caricature. L'inspiration n'est pas divine. Elle ne vient pas du ciel. Elle vient de ce qui est là. Mon inspiration, elle vient de ma culture du lieu. C'est pour ça que je peux l'exporter en Chine. Parce que je connais rien à la culture chinoise. Moi, vous comprenez bien, je ne suis pas professeur de Yin et Yang. Mais je peux faire attention à ce qui se passe là, alors qu'eux-mêmes ne font pas attention. Parce que j'ai entendu parler du fait que les quais de la Seine étaient rendus aux bagnoles. C'était pas terrible. Et que j'ai appris que façonner de la tôle selon de l'industrie navale, c'était une occasion extraordinaire de faire de la double courbure, de la. Enfin, Et qu'au Maroc, je me suis dit, la main-d'œuvre locale est une main-d'œuvre très inspirée et inspirante parce qu'ils ont un savoir-faire artisanal très fort. Donc on pourra aller plus loin dans la complexité. Donc l'inspiration, elle n'est pas démoniaque, elle n'est pas divine, elle est dans la manière de lire les conditions prééminentes du projet. Donc c'est pas, mais quand, je vous dis ça parce que les Chinois ont dit Liu She, la feuille de saule, ça ressemble à une feuille de saule. Je crois que la morphologie structurale inspirée des phénomènes de nature est très intéressante, mais elle n'est jamais intéressante dans la transposition. Il ne faut pas prendre une feuille de saule et dire on va faire un pont avec. Mais il faut comprendre comment la feuille de saule se comporte, quelle est la résistance de forme de la feuille de saule, et puis l'utiliser ici ou demain ailleurs dans un autre projet, là où il n'y a pas de saule. Pas forcément, quoi. Mais j'ai appris ça, il faut qu'il y ait une image symbolique qui soit donnée à l'ouvrage.
Oui, que la philosophie, vous avez un DEA de philosophie, et vous l'avez rappelé, enfin ça a été rappelé, est-ce que la philosophie vous a apporté quelque chose dans votre réflexion et votre pratique architecturale?
Je suis un philosophe de rien du tout, je ne voulais pas quitter le monde des études. Parce que j'y avais passé quelques années et je voulais pas. Je me suis dit qu'à la fin, inquiet, je me suis mis à prendre la clarinette et je me suis inscrit à un DEA de philo pour faire l'histoire de la résistance des matériaux. Donc c'est très. Je vous allez être comme ça, vous allez voir dans 5 ans. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer dans le monde actif. Donc apprenez la clarinette, si vous voulez. Donc je suis devenu un très mauvais clarinettiste et jamais pas du tout un philosophe. Mais par contre, je me suis dit après, avec le temps, je vous invite à lire. Ça va être très prétentieux. Non, mais ça ne va pas faire. Non, Heidegger a écrit un texte sur les ponts qui est vachement bien. Il n'y en a pas beaucoup. Il parle de la rencontre entre les hommes et les mortels et les dieux. Les vivants et les morts, le passage. Non, je vais les faire s'endormir en parlant d'Heidegger. Salut, ça va bien, vous allez devenir des ingénieurs, des architectes, c'est vachement bien. Ça va être bien. Wake up. Yes, we can. Salut les enfants, à bientôt.